CJSO 101.7, La Tribune. Une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Chers amis, bon midi. Bienvenue à la tribune. Sous le thème « Mieux vaut prévenir que mourir », la semaine de prévention du suicide nous encourage à oser parler du suicide, malgré que, oui, il y a des craintes, oui, il y a de l'inconfort, bien sûr. Alors, c'est ce que nous allons faire, oser parler du suicide jusqu'à 13 heures, avec principalement la précieuse collaboration de l'équipe tout aussi précieuse du Centre de crise et de prévention du suicide La Traversée. Vous entendrez à l'émission Fanny, Marie-Lou, Sylvain Dupuis, Catherine Lyons, Francis Saint-Martin Rochon, Céline Thomas et un monsieur X aussi qui est bénéficiaire de La Traversée. Alors, je vous reviens immédiatement après la pause.
CJSO 101.7 salue ses précieux collaborateurs et collaboratrices, dont Annie Boilard.
Je prends le grand défi en 5 minutes de vous expliquer ça à la radio.
Oui.
Parce qu'on est témoins de discussion. Puis on observe que les gens qui se parlent, que vous le voyez, ils s'entendront jamais, ils parlent même pas de la même affaire. Cet outil-là, il nous permet de se donner un cadre pour éviter ces situations-là.
Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines, nous parle dans Valérie d'après-midi à tous les mercredis, 17h15.
Yeah!
CJSO 101.7.
Chez Meubles André Beaulieu jusqu'au 22 février, profitez de notre promotion sur les ensembles de cuisine Whirlpool et Maytag. Achetez 2 électroménagers de cuisine admissibles et économisez $200 additionnels. Chez Meubles André Beaulieu, on vous aide à passer à travers le mois de février à coup de promotion. Lors de votre prochain achat d'un matelas Mirabel, nous incluons les taxes et nous vous offrons un couvre-matelas gratuit. Venez rencontrer nos spécialistes qui sauront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
Leader centenaire bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
C'est la semaine de prévention du suicide jusqu'au 11 février. Je le disais, on suit la recommandation phare de cette semaine, ce midi, à la tribune, en osant parler du suicide. On va principalement le faire avec l'équipe de la Traversée, dont on rejoint d'abord le directeur général Sylvain Dupuis. Bonjour Sylvain.
Bonjour Sylvain.
Ouais, alors c'est vrai, là, il y a des craintes et de l'inconfort à parler suicide. Faut surmonter ça, faut en parler.
Ben, je pense que c'est vraiment important en 2023 de briser un peu les tabous. Il faut savoir que ça existe, que t'en parles ou que t'en parles pas, ça existe. Puis je pense que d'en parler plus, mais ça ouvre des portes d'opportunités pour les gens qui vivent des moments difficiles de trouver des solutions à cette situation-là.
J'examinais, Sylvain, votre rapport d'activité 2021-2022. Les chiffres que j'ai retrouvés à l'intérieur de ce rapport-là m'ont littéralement jeté par terre. 8442 interventions téléphoniques.
Oui,
ça en fait du téléphone.
Ça n'a pas diminué. Hein? Je te confirme que pour 2022-2023, ça va monter d'à peu près de 4000 plus interventions téléphoniques. Donc, on devrait battre le record, malheureusement, de tous les temps au niveau de la traversée. La bonne nouvelle là-dedans, c'est peut-être parce que c'est les gens qui demandent de l'aide. J'espère que c'est ça. Ou la situation est de plus en plus problématique dans la région.
Ben là, c'est les deux. Il y a de la détresse, mais les gens, au moins, font de plus en plus nombreux, posent de plus en plus nombreux le geste de téléphoner à la ressource.
Bien, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit qu'on a des nouveaux clients. On voit aussi qu'il y a une certaine récurrence dans certains, entre guillemets, patterns. Mais c'est pas important, c'est confidentiel, c'est gratuit, puis surtout, ça l'aide du monde pour vrai. C'est le rôle que la traversée a dans la région ici. Il faut pas gêner d'appeler, on est ouvert 24/7, 7 jours sur 7, 365 jours, fériés, Noël, on est ouvert.
Hey, donnons déjà le numéro de téléphone qu'on répétera un certain nombre de fois ce midi, là.
Ben, c'est le 746-0303, 746-0303. si vous êtes partout au Québec, vous avez 1-866 appel, il y a quelqu'un qui va vous répondre.
Bon. Je continue avec les statistiques que j'ai trouvées dans votre rapport d'activité 2021-2022. 757 hébergements, ça aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal.
Ça, c'est en jour, donc oui, c'est beaucoup. On a des lits de crise ici, des lits pour des fois... c'est pas tous des cas nécessairement d'urgence hein, quand tu files pas bien. Puis la traversée, on a 5 lits disponibles ici. On peut accueillir des hommes, des femmes, puis faire en sorte de diminuer la crise, diminuer la pression, diminuer l'anxiété. Puis évidemment, jaser de sa situation avec les intervenants. Donc, souvent, on ne se rend pas à l'hôpital en venant ici. Puis plus vite qu'on se parle, plus vite que des fois tu fais le statut de ta situation, la problématique est toujours moins lourde à porter après.
Bon, vous n'agissez pas à la traversée qu'au moment de la crise. Vous faites aussi à la traversée des suivis de crise et par ailleurs aussi des suivis de deuil, hein?
Exact. En fait, on a des groupes de deuil. Évidemment, souvent ce qui arrive, surtout en situation de suicide, les familles sont super beaucoup accompagnées les premières semaines, les premiers mois. Tout le monde repart travailler, faire sa vie. Mais ça veut pas dire, c'est pas une switch on-off, hein, quand que, tu sais, pour savoir si tu vas mieux ou pas. Puis souvent, il y a plus personne qui va entendre parler nécessairement de l'histoire. Puis c'est là que la traversée des groupes de deuil permet des gens qui ont vécu la même situation de discuter ensemble, de se comprendre, puis tu sais, d'échanger sur des solutions pour apaiser la souffrance aussi.
OK. Suivi de deuil, suivi de crise aussi, hein?
Suivi de crise, c'est souvent quand tu vas à l'hôpital, quand tu vas à l'urgence, t'as besoin. Souvent, tu sais, des services du CLSC, il y a un certain délai. Fait que pour pas laisser entre deux chaises, entre guillemets, mais c'est là que la traversée peut rentrer en ligne de compte pour faire des rencontres, s'assurer de la sécurité, travailler des fois sur des choses que le bénéficiaire subit, là, que ce soit l'anxiété ou plein de choses. Et après ça, quand il est pris en charge, évidemment, on le laisse aller vers des services hospitaliers.
Et on va en parler plus tard avec Francis. Vous offrez de la formation.
Exact. Puis ça, c'est important. Chez nous, on est dans notre région, on peut dire qu'on est riche en formateurs. On a deux formateurs accrédités. Il faut savoir que ces formations-là, nous, on forme tous les employés du CI3S, Montérégie et Centre, à ce niveau-là, au niveau de la prévention du suicide. Donc, la traversée fait énormément de travail sur le terrain, mais aussi est reconnue pour son expertise.
J'allais dire, votre équipe, elle est multidisciplinaire et elle est composée d'intervenants spécialisés.
Oui, puis de toutes les sources. Hein, moi, j'ai diversifié les origines. On a évidemment des TES, des travailleurs sociaux, des étudiants en psychologie, mais de plus en plus des infirmières auxiliaires, du monde qui vient du monde scolaire. Donc, ça permet d'avoir plusieurs facettes, plusieurs expertises dans l'approche. Puis évidemment, l'objectif, au bout du compte, c'est d'aider les gens qui en ont besoin.
La traversée, elle est, je m'aperçois de ça, là, extrêmement présente sur le terrain. Elle est clairement mobilisée à se faire connaître. Vous étiez tout récemment à un match des éperviers. Faire état de toutes les activités auxquelles votre équipe se mêle, là, tous les milieux qu'elle visite, ça nous prendrait l'émission au complet. Mais je veux que vous me parliez de la conférence d'Étienne Boulay ce soir au Marché des arts des Jardins.
Exact. Mais alors ça, Étienne Boulay, quand même, un homme qui a joué reconnu au niveau du Québec. Là, c'est une personnalité publique qui a vécu des moments difficiles dans sa vie. On le reçoit en conférence ce soir à partir de 19h. Il va être sur scène. Puis là, l'enjeu, ça coûte 25$ venez d'écouter. Il y a des billets à la porte. Vous êtes les bienvenus. Puis l'enjeu, c'est vraiment de comprendre la situation, trouver aussi, échanger avec lui sur comment il s'en est sorti. Puis, c'est souvent un bon facteur, une bonne raison pour échanger entre nous. Hein. Souvent, les meilleures rencontres, ça se fait après la conférence, puis avant la conférence. Donc, gênez-vous pas de venir faire un tour, c'est à Azimut ce soir.
Et vous avez eu la bonne idée de laisser des billets à CJSO pour nos auditeurs. Alors, ils sont au comptoir, à la réception. Vous n'avez qu'à passer. On va vous en remettre. On en a en quantité limitée, évidemment, mais des billets gratuits comme ça. Généreux.
Exact.
C'est dans le cadre d'une campagne de financement que vous menez, hein, cette conférence de ce soir?
Exactement. Ce soir, on fait tirer aussi des prix. On a lancé une campagne de financement majeure. L'enjeu, c'est... Oui, on est financé par le gouvernement un peu au niveau du PSOC, Mais évidemment, tu sais, plus que tu es sur le terrain, plus que tu as une équipe sur le terrain, plus il faut que tu te déploies. Fait que l'enjeu, c'est vraiment de solliciter des dons des gens. On peut encore l'acheter en ligne. Solliciter des dons des gens pour investir tout simplement. Moi, la promesse que j'en fais, c'est que je vais dépenser cet argent-là en aide, en soutien, en sensibilisation.
Merci beaucoup, Sylvain Dupuis.
Ça fait plaisir, Sylvain. Merci.
Merci, Sylvain. Fanny, maintenant. Fanny est intervenante de crise. Bonjour, Fanny.
Bonjour.
Dites-moi donc, Fanny, qu'est-ce qui vous a conduit à exercer ce travail-là, à la traverser? Quel parcours, quelle motivation vous a amené là?
OK. Moi, dans le fond, ça fait presque 20 ans que je suis intervenante de crise. Ça fait à peu près 4-5 ans que je suis à la traversée à Sorel. Sinon, j'ai été pendant une quinzaine d'années là en travail toxico de rue à Montréal, au centre-ville, dans Schlager-Maisonneuve. Donc, ça m'a allé. Je suis arrivée à Sorel et ça a été pour moi... Mon emploi, le rêve pour moi.
OK. C'était naturel de vous diriger là. Vous aviez de l'expertise et vous aimez ce domaine-là. Il y a 3 suicides par jour au Québec. 3 suicides par jour. Alors ça, c'est du monde qui a considéré le suicide comme une option pour mettre fin à sa souffrance. On fait quoi pour changer ça?
Bien, en fait, c'est quand on est rendu à vouloir penser à l'axe, c'est que la souffrance est tellement grande qu'on ne voit plus d'autres solutions, on ne voit plus autre chose. On est comme aveuglé des solutions possibles autour de nous. Donc, c'est ça prend des fois un proche qui remarque certaines choses ou essayer d'en parler un peu plus. Plus qu'on va se faire voir, plus que des fois les gens ils vont se ça va ramener à eux. Ah, j'ai vu des choses difficiles. Je devrais peut-être aller en parler. Je devrais peut-être parler à un proche.
OK. Ben là, je retiens qu'une personne ne se suicide pas par choix, mais par l'impression de ne plus avoir de choix. C'est ça?
Oui, effectivement. Souvent, ça va être dans ce sens-là, effectivement.
Bon, vous nous parliez de ces gens autour de ces personnes qui peuvent les aider, mais la détresse chez l'autre, on la décèle comment et on y répond comment? Elle n'est pas toujours criante, là.
Non, effectivement. Moi, ce que je suggère tout le temps, c'est que si on a un doute puis qu'on a une inquiétude envers nos proches, moi, j'invite toujours les gens à appeler à la ligne 24-7 ou 450-746-0303 parce qu'on est là aussi pour les proches. Fait que des fois, d'en parler de nos inquiétudes, ça nous permet, nous, on peut vous diriger dans ce temps-là puis on peut vous conseiller, ce qui peut amener plein de bonnes choses aussi autour.
D'accord. Alors, la ligne téléphonique à la traversée, c'est pour nous quand on sent en avoir besoin, mais c'est aussi quand on s'inquiète pour quelqu'un d'autre.
Effectivement.
Fanny, que l'enjeu des hommes et des adolescents vous interpellait particulièrement.
Ben oui, effectivement. C'est sûr que quand on travaille longtemps au niveau de la vie en toxicomanie, on est beaucoup, beaucoup entouré par une clientèle qui est d'hommes. Il y a beaucoup de souffrance chez les hommes qui est non dit encore. En même temps, il faut faire attention pour bien respecter ça aussi, parce que je pense que un homme qui décide de parler ou de vouloir s'ouvrir un peu, ça demande beaucoup. Donc, c'est important aussi de laisser l'espace à la personne qui se sent respectée. Puis chez les adolescents, oui, c'est un enjeu. Je vais présentement dans les écoles faire des rencontres avec nos adolescents, que ce soit à Bernard Garrépy ou à Fernand-Lefebvre. Parce que en démontrant qu'on est là, qu'on est disponible, qu'on peut déjà être présent et apporter des suivis directement dans leur milieu où ce que les jeunes se sentent à l'aise, ça enlève des stress aux parents, qui ça le décharge un peu, et le jeune est beaucoup plus ouvert à discuter de comment ça va et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de le mettre en sécurité.
Il y a certainement des mythes à déconstruire à propos du suicide. Est-ce que c'est un mythe de penser que de demander à quelqu'un s'il pense au suicide encourage le passage à l'acte? Est-ce que c'est un mythe, ça? Est-ce qu'il faut poser la question? Penses-tu au suicide?
Bien, je crois que oui. Je crois que c'est important de poser la question. C'est un mythe de dire que ça encourage de passer à l'acte, au contraire. Moi, je crois que des fois, de réussir à le nommer, Oui, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de poser la question.
Très bien. Merci beaucoup, Fanny. Merci.
Mais ça me fait plaisir.
Catherine Lyons est formatrice et coordonnatrice clinique au Centre de crise et de prévention de la traversée. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
C'est un univers dans lequel vous naviguez depuis un bon moment déjà, je pense.
Oui, quand même. En fait, il y a très longtemps, je suis hésitante à vous dire ça, dans les années 90. Je n'étais pas vieille, je pense, dans les années 90.
Vous avez commencé toute jeune.
Toute jeune. Mais j'étais bénévole à l'Action Montréal. Donc, depuis ce temps-là, ben oui, ça a toujours fait partie de mes intérêts, la prévention du suicide.
Comment vous parvenez, tout en étant, là, je le devine, éminemment sensible, très empathique à la détresse des autres, comment vous parvenez à ne pas vous laisser envahir vous-même par cette détresse-là?
C'est une bonne question. Je pense que, il y a une certaine façon, effectivement, de se protéger puis de prendre soin de soi en gardant en tête. Je pense que j'essaie d'appliquer les mêmes choses qu'on essaie d'appliquer avec les gens qui sont en souffrance, c'est-à-dire que oui, il y a de la place pour la souffrance dans la vie. Malheureusement, on peut pas faire sans, mais il faut conserver une certaine bulle, un certain espace pour les choses qu'on aime, pour les gens qu'on aime, pour les activités qui nous font du bien. Donc, je pense que c'est une des façons que je prends pour me protéger moi aussi. En lien avec ça. Sinon, on pense aussi que la prévention du suicide, c'est quelque chose qu'on est beaucoup dans le négatif et tout ça, mais on est beaucoup sur l'espoir, sur qu'est-ce qu'on souhaite avoir dans la vie, qu'est-ce que dans la projection de l'avenir, c'est ça qu'on va travailler avec la personne qui est suicidaire ou qui va pas bien. Pas juste c'est quoi son problème, puis c'est ça. On va essayer de pas faire grandir davantage le problème, mais faire grandir davantage les choses qui vont bien autour de lui. Donc, c'est pas si déprimant que ça.
Je comprends. Vous êtes responsable clinique des liens avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Parlez-moi de ces liens que la traversée a avec le CISM.
Ben, des liens qu'on construit toujours un peu plus. Je pense qu'on a autant le CIS que la traversée a une volonté de faire en sorte que leurs clients soient bien traités, bien accompagnés. On le sait, c'est pas toujours facile les références et tout ça. Donc, avec le CIS, on essaie de faciliter le plus possible dans le fond le cheminement, que ce soit de la traversée à l'hôpital, de la traversée au CLSC ou l'inverse, quelqu'un qui sort de l'hôpital, quelqu'un qui sort de l'urgence, de la psychiatrie. Donc là, on a commencé à mettre des choses en place pour faciliter tout ça. Mais c'est encore je pense qu'il y a des progrès à faire, mais on travaille très fort là-dessus là, pour vraiment que les gens soient bien encadrés, bien accompagnés.
OK.
Et les meilleurs services aussi.
Oui. 757 hébergements à la traversée en 2021-2022, notais-je tantôt là, au téléphone avec Sylvain Dupuis. Parlez-moi plus avant, Catherine, de ce service que vous offrez là, d'hébergement et qui permet évidemment un suivi un peu plus étroit. Là.
Oui. Bien, au départ, on parle d'un 24-48 heures hein, pour se déposer. On parle de gens qui sont en crise. Donc, on va offrir un 24-48 heures pour se déposer, pour réduire la crise. Évidemment, c'est pas un 24-48 heures qui est ferme, dans le sens que on peut voir qu'il y a encore des besoins après, mais on évalue aux 24 heures ou aux 48 heures maximum le besoin d'hébergement. C'est pas un hébergement pour que, en fait, l'hébergement ne répond pas à un besoin, je dirais, d'hébergement pur, dans le sens que si mon seul problème que j'ai, c'est de pas avoir de place, c'est un peu réduit, là, parce que c'est jamais mon seul problème que j'ai, mais si c'est vraiment ça le problème qui me rend mal, c'est de pas avoir d'hébergement. Il y a d'autres ressources qui font ça beaucoup mieux que nous, qui font ça à plus long terme, qui peuvent accompagner vers une démarche en logement, etc. Nous, on est là vraiment pour réduire la crise, servir de filet de protection aussi. Hein, on peut être là plus tôt qu'aller à l'hôpital, si on a quelqu'un qui a quand même un certain contrôle, qui est capable d'aller, par exemple, voir son médecin à l'externe, d'avoir tous ces soutiens-là, mais qui a besoin comme d'un petit peu plus de protection, qu'à la maison, il ne sent pas en sécurité, bien, nous, on peut offrir... offrir cet hébergement-là.
D'accord. Il faut toujours prendre les menaces de suicide au sérieux. Ce sont toujours des appels à l'aide?
Je dirais que oui, mais je vous entends penser, là, vous faites référence à l'idée que les gens qui parlent de suicide sont souvent des manipulateurs.
Ben, attends, on a souvent entendu ça, là.
Ben oui, on entend ça, effectivement. Mais moi, ma perception de ça, c'est que quelqu'un qui vous parle de suicide, c'est quelqu'un qui souffre. Puis il gère sa souffrance en vous parlant du suicide, en vous disant qu'il veut se suicider, il vous parle, il vous crie sa détresse. Donc, c'est sûr que si je prends l'exemple. Par exemple, vous êtes en couple, la personne vous quitte, puis là, elle dit, si tu me quittes, je me tue. Ça se peut que vous vous sentiez manipulé. Mais elle, est-ce qu'elle veut vous manipuler? Je suis pas sûre. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois comme elle essaie de gérer sa souffrance. Ce qu'elle vous dit, c'est que tu me quittes, ça me cause terriblement de souffrance. Donc, oui, il faut prendre ça au sérieux, puis il faut s'attarder à la souffrance, pas tant à « est-ce que je te quitte ou pas », mais écoute, en ce moment, ce que tu vis, c'est difficile.
Il y a des moments critiques de la vie où les pensées sombres nous fragilisent particulièrement, nous rendent vulnérables particulièrement au suicide. J'imagine, je ne veux pas répondre à ma propre question, mais j'imagine que ce sont des situations qui touchent nos raisons de vivre.
Oui, tout à fait. On parle beaucoup des moments critiques qui sont beaucoup liés aux raisons de vivre. Par exemple, les gens qui perdent un proche, que ce soit un décès, que ce soit une séparation, ça fait partie des choses qui vont être dans les moments critiques. On va parler de quelqu'un qui a un travail qui met toute son énergie à son travail, que c'est super important et qui perd son travail. Ça peut être un moment critique pour certains. On va regarder vous avez parlé à Fanny, chez des jeunes, par exemple, des adolescents qui sont le souci de performance, l'anxiété de performance. Des fois, un simple examen peut être un moment critique parce que pour moi, je mise un peu ma capacité de voir l'avenir dépend de cet examen-là. Donc, ça peut être un moment critique, mais c'est vraiment la perception que j'en ai aussi.
Mm-hmm. Et ça varie d'un individu à l'autre, naturellement.
Complètement, ça varie d'un individu à l'autre. Pour certains, ça va être un moment critique. Pour d'autres, c'est... Il y a des étudiants qui, un 70, ça donne des idées suicidaires, puis l'autre, 52, c'est correct, il n'y a pas de problème.
Catherine, Lyons, je dois vous remercier maintenant. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Bonne
Merci
journée.
À vous pareillement. Cette édition de La Tribune sur la prévention du suicide se poursuit après la pause en compagnie de Marie-Lou et de Francis Saint-Martin-Rochon.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné? Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Cet hiver, créez votre propre magie en séjournant au Fairmont, le Château Frontenac. Avec son confort inégalé, son ambiance chaleureuse et sa programmation d'activités pour toute la famille, Fairmont, le Château Frontenac est l'hôtel idéal pour vous faire vivre une escapade mémorable en plein cœur du Vieux-Québec. Profitez de l'offre résident du Québec et obtenez 30% de rabais sur votre séjour. Fairmont, le Château Frontenac.
Valérie l'après-midi, c'est votre rendez-vous de fin de journée à CJSO. Ici Valérie Ferland, je peux compter sur Sylvain Rochon pour les informations régionales et sur mes collaborateurs pour parler santé, livres, nutrition et vie au travail. Puis, attendez de savoir ce que je vous réserve sur le plan musical. Soyez là du lundi au jeudi, 15h30.
La Tribune, une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
C'est la semaine de prévention du suicide jusqu'au 11 février. On suit la recommandation de cette semaine, ce midi à la Tribune, en osant parler du suicide. On poursuit avec Marie-Lou, qui est intervenante de crise. Bonjour, Marie-Lou.
Allô, Sylvain.
Votre travail n'est assurément pas fait pour tout le monde. Moi je trouve que la seule appellation, là, travailleuse, intervenante de crise, peut donner la frousse. Là, on est peu à courir après les crises. Qu'est-ce qui vous fascine dans le travail d'intervenante de crise, au juste?
Bien, je pense qu'il faut aimer qu'il n'y ait pas de routine, puis que ça soit jamais la même chose, puis qu'on soit toujours... ça prend une capacité d'adaptation assez exceptionnelle pour travailler en crise, d'être toujours prête à faire face à peu importe la situation. Puis moi, c'est ce que j'aime, là, d'avoir jamais de routine, puis de toujours voir des choses différentes, puis de toujours être... de me dépasser moi-même en tant qu'intervenante aussi. Là.
Vous êtes sûrement servie à soi. Comment êtes-vous arrivée à la traversée, votre parcours?
Moi, je suis à ma deuxième année à la traversée. Dans le fond, je suis infirmière auxiliaire de formation. Je me suis spécialisée en santé mentale, mais le domaine, malheureusement, n'était pas fait pour moi. À chacun son métier, puis c'est bien correct. Moi, je suis arrivée, dans le fond, au CPS un peu par hasard, comme ça, par curiosité, parce que j'aime l'être humain, j'aime aider les autres. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Puis finalement, je suis vraiment, vraiment tombée en amour avec la place.
Vous œuvrez particulièrement auprès des jeunes et en centre pénitentiaire. Parlez-moi des jeunes d'abord. J'ai appris en parcourant le rapport annuel sur le suicide là, publié par l'Institut national de santé publique du Québec que les comportements suicidaires chez les adolescentes et les jeunes femmes avaient connu une hausse en 2021. Est-ce que votre pratique vous permet d'observer ça?
Oui, effectivement, cette année risque d'être nocif à nous, là, risque aussi de doubler, voire tripler versus l'année dernière, l'année scolaire, l'année dernière. Les jeunes ne vont pas bien. C'est assez exceptionnel. Là, primaire, du plus jeune âge, ils font de l'anxiété, ils ont de la difficulté. On a des adultes aussi autour qui sont épuisés, qui essayent, qui manquent de ressources, qui ont besoin d'aide aussi, qui lèvent le flag, qui n'en ont pas. Fait qu'on a vraiment... c'est alarmant au niveau des jeunes primaires, là, très, très alarmant.
Ces jeunes-là vivent de la détresse psychologique, là, du désespoir extrêmement souffrant, lié à quoi? J'avais parlé d'anxiété, notamment.
Mais ça peut être pour plein de choses. Ça peut venir du milieu familial, ça peut venir de l'école, ça peut venir de n'importe quelle sphère de leur vie. Puis je pense qu'on est dans une société qui roule tellement vite, tout va vite, les choses avancent rapidement, les jeunes ne suivent pas nécessairement toujours, les demandes sont très grandes pour eux, ils se mettent de la pression souvent. Il y a beaucoup, j'entends beaucoup de l'intimidation, des choses comme ça dans les écoles, mais je vous dirais que les jeunes se mettent beaucoup de pression pour être à la hauteur, c'est ce qui ressort le plus.
Qu'est-ce qui doit nous inquiéter comme parents? À quel signe doit-on être très attentif?
Tous les signes là, on connaît nos enfants hein, en étant maman, moi je connais les miens par cœur, je sais quand il y a un comportement qui sort de l'ordinaire, puis dès qu'on se dit inquiète, on est toujours mieux de vérifier, de demander le relais si jamais on a besoin. On n'est jamais un bon intervenant pour notre enfant. Là, c'est toujours mieux de demander à quelqu'un qui est externe pour pas être impliqué émotionnellement. Mais dès qu'il y a un comportement qui n'est pas habituel chez notre enfant, qu'on voit qu'il s'isole plus aux jeux vidéo, qu'il s'isole plus dans sa chambre, qu'il veut plus parler avec ses amis, qu'il veut plus nous parler à nous, qu'il mange plus ou mange plus, tout type de comportement là, qui sortent de l'ordinaire. Là.
Un clin d'œil aux moins jeunes enfants, la traversée et le cégep de Sorel-Tracier et sa fondation se sont unis hein, pour prévenir le suicide?
Oui.
Avec il y a un logiciel, là...
Oui, il y a le logiciel Ali qui a été mis en place, là, dans le fond, que tous les élèves doivent avoir sur leur téléphone avec le programme du cégep. Fait que ça aussi, là, ça fait en sorte que c'est très difficile pour les gens d'apprendre le téléphone et d'appeler d'eux-mêmes. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens. Donc, avec la technologie d'aujourd'hui, de pouvoir avoir une intelligence artificielle qui va te poser les questions puis t'envoyer que quelqu'un que nous, on appelle à la place, là, si jamais la personne a le besoin, ben ça aide aussi beaucoup. Hein.
Tantôt, je référais au fait que vous œuvrez aussi en centre pénitentiaire, au centre de détention de Sorel, je dois présumer. En une minute, levez donc un peu le voile sur cette partie-là de votre travail?
Dans le fond, le programme avec la prison de Sorel, ça s'appelle « Briser l'isolement ». On va vraiment en détention, là, on est trois intervenantes, moi, Annie et Laurie, aller au centre pénitentiaire Sorel. Tu sais, le but de tout ça, c'est que ça reste des êtres humains, peu importe d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis moi, ce qu'ils ont fait, ça m'intéresse pas. C'est l'être humain derrière ça, c'est d'aller les écouter, d'aller les soutenir. Des fois, ils ont de la famille, des fois, ils en ont pas. C'est pas toujours facile non plus. Ils ont juste besoin d'une personne de confiance, de quelqu'un qui, sans jugement, ouvert d'esprit, à juste écouter nécessairement ce qu'ils vivent là, dans leur vie présentement. Là.
Merci beaucoup, Marie-Lou. Ça a été très intéressant de converser avec vous.
Merci beaucoup.
Merci. Francis Saint-Martin-Rochon est formateur au Centre de crise et de prévention du suicide de la Traversée. Bonjour, Francis.
Bonjour.
Bon, il faut que je commence par un compliment pour votre joli nom de famille. Là.
Merci beaucoup. Le vôtre aussi. Hein?
Francis, raconte-moi à ton tour le chemin qui t'a conduit à la traversée. Quelles études, quelle expérience professionnelle? Comment t'es-tu ramassé là?
Oui, moi, tout a commencé plutôt simplement par un DEC en sciences humaines. Et ensuite, ben j'ai vécu moi-même certaines difficultés qui m'ont poussé, qui m'ont donné le goût d'étudier en psychologie. Donc ensuite, j'ai été à l'université, j'ai un certificat en psychologie, un autre en intervention psychosociale et un en criminologie, là, ce qui me donne un bac par cumul. Et ensuite, ben c'est ça, j'ai travaillé en maison de transition comme intervenant et ici à la Traversée comme intervenant aussi pendant 3 ans. Et là, depuis 1 an et demi, je suis à la formation.
Alors, formateur, j'ai lu que plus de 3000 sentinelles en prévention du suicide ont été formées à travers le Québec. Est-ce que ça fait partie des formations que vous offrez à la Traversée? En formez-vous personnellement des sentinelles?
Oui, effectivement, on donne la formation sentinelle. Et c'est une formation qui est très importante parce que les citoyens, c'est une formation qui est offerte aux citoyens, hein, donc pas besoin d'avoir une formation d'intervenant ou de travailler directement dans le système. C'est tout le monde qui peut suivre cette formation-là et ça contribue énormément à la prévention du suicide parce que les citoyens qui sont formés pour repérer les personnes qui peuvent être vulnérables au suicide, c'est comme les yeux des intervenants en prévention du suicide. Donc, de pouvoir référer les personnes aux bons endroits, ben ça aide ensuite les intervenants à pouvoir les aider.
C'est une formation relativement courte?
Oui, c'est un 7 heures de formation, donc une journée. Ensuite, on a maintenant des petites épinglettes qu'on remet aux personnes qui sont sentinelles, qui sont nouvelles dans le milieu.
OK. Si je comparais, je vais avoir tenté une comparaison là, riez pas de votre père. Si je compare tes sentinelles aux personnes capables de donner les premiers soins là, ou de pratiquer la réanimation cardio-respiratoire en attendant que des spécialistes prennent la relève. Est-ce que je suis dans le champ ou j'ai compris pas pire?
Non, tu as compris parfaitement. C'est vraiment le rôle d'une sentinelle et c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on dit aussi en formation. Là, c'est ce qu'on nomme comme exemple pour expliquer le rôle d'une sentinelle.
Il y a d'autres formations que vous offrez à la traversée là, que j'appellerais plus poussées, moins grand public?
Oui, effectivement, il y a la formation repérage là, qui est surtout pour les personnes qui travaillent dans le système, qui sont appelées à fréquenter des personnes qui ont des idées suicidaires, mais qui font pas de l'intervention directe avec eux. Donc, pour repérer les signes de détresse, les moments critiques que peuvent vivre une personne et les référer ensuite à un intervenant qui a suivi la formation de 3 jours, intervenir auprès des personnes suicidaires à l'aide de bonnes pratiques. Donc là, à ce moment-là, c'est une formation de 3 jours là, que tous les intervenants en prévention suicide ont suivi.
OK. Comment on entame une conversation sur le suicide? On est inquiet pour quelqu'un. Là. On aborde ça comment avec cette personne-là? Donnez-nous quelques trucs pour entamer la conversation.
Oui, alors je pense que c'est important hein, d'y aller directement sur le bobo, sur la blessure, comme on dit. On repère les signes de détresse chez une personne, exemple, qui vit un moment critique, par exemple, une clientèle vulnérable, hein, on a parlé, un homme, exemple, qui vit une rupture amoureuse, là, c'est très répandu. À ce moment-là, je pense que on peut y aller, tu sais, avec qu'est-ce qu'on observe chez la personne. Donc, exemple, ça me semble pas très bien aller pour toi. Je m'inquiète pour toi, puis ça m'amène à me demander, est-ce que tu penses au suicide?
Alors, on le demande carrément, là, comme une collègue, une de vos consoeurs me l'a dit tantôt, là.
Oui, oui. En fait, ça brise le tabou. Hein, oui, il y a des gens qui vont penser, qui vont dire, hey, c'est raide, hein? Est-ce que la personne va se sentir attaquée de poser cette question-là? Mais pas du tout. En fait, c'est le contraire, parce que quelqu'un qui pense au suicide, c'est difficile pour lui d'en parler. Encore plus pour les hommes, hein, à cause de la culture masculine et tout ça, malgré que ça a une tendance à changer. Mais c'est quand même le fait de le demander, ça libère la personne parce qu'elle a de la difficulté à en parler, donc elle est comme soulagée qu'on lui en parle. En fait.
J'abordais tantôt les mythes à déconstruire sur le suicide. Le suicide, ce n'est ni un geste lâche, ni un geste courageux?
Exactement. Non, donc le suicide, c'est de la souffrance. Hein? Donc, les termes lâche et courageux vont souvent être en fonction de la perception qu'on a. Hein, si, par exemple, on est un endeuillé par suicide, on va dire peut-être c'est l'âge qui le fait ça. Hein, ou au contraire, si on est une personne qui va pas bien nous-mêmes, ben, on peut percevoir ça comme du courage, alors qu'en réalité, c'est de la souffrance. Hein. La personne n'a pas fait de choix, c'est un manque de choix.
Et c'est l'impression de ne plus avoir de choix, finalement, de voir le suicide comme le seul moyen de mettre fin à sa souffrance.
Exactement. Je pense que c'est de la détresse tellement avancée que et c'est l'impression aussi d'avoir tout essayé. C'est du désespoir, hein. C'est dans les souvent des critères diagnostiques aussi de la dépression, de l'anxiété. Donc l'impression d'avoir tout essayé, le fait d'être de se sentir comme dans une boîte où on est vraiment dans une impasse, donc on pense qu'il n'y a plus de solution. En réalité, il y en a toujours, et c'est ça le travail des intervenants en prévention du suicide, c'est de montrer aux personnes suicidaires qui ont encore des solutions.
Bien, merci beaucoup, Francis Saint-Martin-Rochon. Merci.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Après la pause, Céline Thomas et on va l'appeler Monsieur X. Lui, il a vécu de la grosse souffrance et il a trouvé du réconfort à la traversée.
Les plus gros succès dans la grande région de Sorel-Tracy, ils sont ici. CJSO 101.7. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et c'est assurément l'occasion idéale, le moment parfait pour vous pour y aller de la grande demande. À la bijouterie Daniel Blatt, nous avons une vaste sélection de bagues et nous sommes là pour vous conseiller. Vous avez envie de séduire? Que vous désiriez un collier, une montre ou des boucles d'oreilles dans des modèles différents et raffinés? Pour votre amoureux ou votre amoureuse, c'est à la bijouterie Daniel Blatt que vous trouverez. Au moment de faire votre demande en mariage, vous entendrez « Oui ». Pour la Saint-Valentin, pensez bijouterie Daniel Blatt, 905 route Marie-Victorin.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La Tribune, une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
C'est la semaine de prévention du suicide jusqu'au 11 février. Je vous rappelle que nous avons, à la réception à CJSO, au comptoir, des billets pour la conférence présentée ce soir au Marché des arts Desjardins d'Étienne Boulay. C'est sous les auspices de la Traversée. Alors, ce sont des billets que nous vous offrons gratuitement. Alors, faites le détour, passez par CJSO et on va vous en remettre. Alors, nous poursuivons notre discussion avec Céline Thomas. Bon midi, Céline.
Bon midi à vous, M. Rochon.
Vous travaillez au CLSC Gaston Bélanger. On me parle de vous comme d'une intervenante expérimentée en intervention de crise et prévention du suicide. Depuis combien d'années œuvrez-vous dans ces domaines-là, Mme Thomas?
Eh bien, à Sorel, ça fait 14 ans là, que je travaille ici au CLSC à Sorel, au niveau de l'accueil psychosocial.
Et il y a eu autre chose avant Sorel?
Oui, j'ai eu différentes expériences, tant au niveau de la famille, auprès, j'ai travaillé dans le Grand Nord aussi avec les avec les Autochtones, j'ai travaillé dans les maisons de transition et en milieu carcéral également.
Quels signes peuvent indiquer qu'une personne pense au suicide? Il y a des changements de comportement qui peuvent nous mettre sur la piste?
Oui, effectivement, c'est bien. En fait, il y a plusieurs éléments dont il faut rester à l'écoute. Il y a des changements de comportement, oui. Il y a aussi les événements qu'une personne peut vivre dans son quotidien, où est-ce qu'elle peut traverser des épreuves qui peuvent faire en sorte que, qui peuvent contribuer, qui peuvent devenir des facteurs de risque pour la personne, indépendamment de son âge, indépendamment de sa situation sociale. Donc, c'est important de rester à l'écoute. Puis, des fois, des petites phrases qu'on peut retrouver comme que la personne commence à vouloir parler de la mort, commence à vouloir léguer des objets personnels, et même pour se poser des questions sur des méthodes de suicide et des choses comme ça, c'est toutes des choses qui peuvent être des indicateurs. Alors, c'est ça.
L'écoute, l'ouverture, la bienveillante ne nécessite pas une formation professionnelle. Si une personne de notre entourage nous inquiète, faut oser lui demander simplement comment elle va.
Absolument, et j'irais dans le même sens que mes collègues à la traversée. Il ne faut pas hésiter à demander, à poser la question. Est-ce que tu as des idées suicidaires? Aborder le sujet de façon tout à fait concrète. Utiliser les vrais termes.
Oui, je disais tantôt, quand une personne, parce qu'il y en a aussi, qui menace clairement de se suicider, il faut toujours prendre ça au sérieux, hein? Toujours.
Toujours à prendre au sérieux, justement, indépendamment de la situation, parfois on peut avoir tendance à minimiser, mais non, c'est vraiment toujours, toujours à prendre au sérieux, indépendamment de l'âge de la personne.
Et nous l'avons dit quelques fois depuis midi 10, une personne ne se suicide pas par choix, c'est par l'impression de ne plus avoir de choix pour mettre fin à sa détresse, hein, c'est ça?
Exactement, oui. C'est ce qu'on a observé. En fait, je dirais comme mon collègue qui a parlé précédemment à la traversée, dans le fond, la personne, ce qu'elle veut, c'est arrêter de souffrir. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les solutions, elle identifie des solutions et l'entonnoir, les pistes de solutions se diminuent au fur et à mesure qu'elle tente des choses puis que ça se met pas en place.
Accompagner, Céline Thomas, quelqu'un qui vit de la détresse, peut nous faire vivre à nous-mêmes des émotions difficiles?
Oui, c'est pour ça que c'est aussi important de consulter et de pas se gêner pour communiquer. Bon, évidemment, on travaille en partenariat avec tous les organismes de la région et je vous dirais que toutes les portes sont adéquates, que ce soit la traversée, que ce soit l'accueil psychosocial ici, que ce soit le 811 option 2, que ce soit suicide.ca, que c'est tous ces endroits-là sont des bons endroits pour demander de l'aide. Et il faut demander de l'aide tant et aussi longtemps qu'on ne reçoit pas d'aide en tant que telle. Fait que c'est vraiment, on est ouvert à tout le monde. Puis il ne faut pas oublier aussi que les gens peuvent se présenter ici à l'accueil psychosocial sans rendez-vous. Au CLSC. Ils ont juste à demander à parler avec une travailleuse sociale. On a une intervenante qui est de garde tous les jours de la semaine. On n'a pas la même disponibilité que le centre de crise de la traversée. On est ouvert de 8h le matin à 8h le soir et la fin de semaine et les jours fériés de 8h à 4h. Mais il y a toujours une travailleuse sociale qui va se faire un plaisir de rencontrer les gens qui sont intéressés à avoir de l'aide pour eux-mêmes ou pour leurs proches, qui sont inquiets pour leurs proches.
Comment vous partagez-vous la tâche CLSC et la traversée? Comment ça marche?
Bien, j'ai envie de vous parler de filet de sécurité, justement, parce que nous, en en tant qu'intervenant psychosocial à l'accueil, on va toujours évaluer le risque suicidaire d'une personne. Alors, quand on, avec nos outils d'évaluation et tout ça, et qui sont les mêmes outils d'évaluation que le centre de crise a traversé, on va être en mesure d'établir une priorisation. Et quand une personne va nous inquiéter particulièrement, c'est là qu'on va mettre en place un filet de sécurité. Et bon, c'est aussi là qu'on travaille en collaboration avec la traversée, parce qu'il y a possibilité d'avoir des suivis étroits en attendant qu'on place d'autres services ici au CLSC. Donc, c'est ça, c'est un beau travail de partenariat.
OK. Alors, il y a chez vous au CLSC, comme il y a au Centre de crise et de prévention du suicide de la traversée, un protocole basé sur... Là, je vais dire ça en amateur un peu, sur le pourcentage de risque que la personne intente à ses jours.
Oui, on a un outil comme... oui, effectivement, en fait, on a un outil qui nous permet d'évaluer différents éléments là, qui contribuent aux facteurs de risque. Si la personne vit beaucoup d'isolement, si elle vit beaucoup d'impulsivité, s'il y a des tentatives de suicide antérieur, c'est toutes des choses qui sont évaluées une par une et qui, en bout de ligne, nous donnent un résultat. Et évidemment, c'est l'écoute qui nous amène à pouvoir émettre une priorisation d'évaluer la dangerosité là, de la situation.
OK, bien c'est ça. La situation de crise claire, là, importante, c'est certainement celle que vous redoutez le plus, c'est celle qui vous met le plus grand poids sur les épaules?
Bien, je vous dirais que l'important, c'est d'être à l'écoute. Donc, tu sais, il n'y a pas de petite crise, il n'y a pas de grande crise. Il y a des facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on a on a une urgence de mettre en place un filet de sécurité, mais il n'y a pas de petite détresse ou de grande détresse. De la détresse, c'est de la détresse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder avant de demander de l'aide.
Ne jamais négliger.
Absolument.
Quelque situation. Merci beaucoup, Céline Thomas, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Nous terminons cette émission avec, nous allons l'appeler Monsieur X. Monsieur X, bonjour.
Salut.
Alors, merci de nous accorder cette entrevue. Là, je suis conscient que ça puisse remuer des souvenirs douloureux chez vous. Je vais vous le demander, carré, il y a un moment de votre vie où vous avez pensé au suicide?
Oui.
C'était quoi? C'était une option pour en finir avec vos souffrances, avec vos problèmes? Expliquez-moi un peu qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là.
Ben, c'est plus l'abandon qui fait que quand on est rendu aller vers un projet gouvernemental ou comme la maison où je suis, où ce que j'ai passé, ben on vit beaucoup d'abandon quand on se ramasse là.
Alors, vous viviez de l'abandon, puis vous n'arriviez plus à voir du tout de lumière au bout du tunnel, là.
Mmh. Exact.
La personne qui pense au suicide veut cesser de souffrir et non arrêter de vivre. Est-ce que c'est une affirmation avec laquelle vous seriez d'accord?
Oui, oui, oui.
Alors vous, dans le fond, c'est pas que vous aimiez pas la vie, c'est que c'est la vie que vous deviez mener qui n'avait plus pour vous de sens.
Exact.
Alors, dites-moi comment la traversée vous a aidé.
Ben, c'est-à-dire qu'avec tout ça, il découle beaucoup de problèmes techniques, là, tu sais, comme des fois des problèmes d'appartement, des problèmes avec nos papiers. C'est pas juste un mal-être, là, tu sais, il y a beaucoup de choses techniques qui viennent avec ça, puis de ce côté, vraiment beaucoup, beaucoup d'aide de leur part. Ce qui change tout, en bout de ligne.
Est-ce que vous avez vécu l'hébergement à la traversée?
Oui.
Ah, vous y êtes resté quelques jours?
Oui.
Et ils vous ont aidé à vous trouver un endroit où vous posez de façon permanente?
Ben, beaucoup d'aide après pour l'appartement, pour les papiers, puis tout. Parce que comme je vous dis, quand on se ramasse dans une situation de même, c'est pas juste... ça tombe pas du jour au lendemain. Mettons que c'est quelque chose qui... ça fait déjà un bout que ça dure, fait qu'on perd beaucoup d'options.
OK. Vous, toute votre vie s'écroulait, là, finalement. Là.
Oui, oui.
Puis, on a réussi à vous faire cheminer vers l'idée qu'elle valait encore, malgré tout, la peine d'être vécue. Puis qu'il y avait
tout était possible encore, tu sais.
Puis, comment allez-vous aujourd'hui?
Je vais bien.
Ben, c'est beau à entendre. Et vous avez eu un suivi de la part de la traversée?
Ça vient avec les solutions. Il n'y a rien de magique, là, tu sais. Tant qu'on n'a pas de solution pour nos problèmes, ça continue de mal aller. Mais quand on tombe du côté des solutions, ben les choses vont beaucoup mieux. Puis ils sont là pour nous aider pour ça.
Alors, si on a mal, qu'on se met à cultiver des idées sombres, vous nous recommandez de composer le 450-746-0303?
Oui. Je pense beaucoup que ça doit passer plus par les proches, tu sais, que la personne en tant que telle, d'appeler le directement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, c'est plus d'être attentif à nos proches.
Vous, il y a des proches qui vous ont aidé puis qui vous ont dit « Venons voir la traversée, appelle donc à la traversée. »
C'était pas mon cas, mais ça aurait été plus facile si ça l'aurait été.
Je comprends. Merci beaucoup de votre générosité. Merci de nous avoir partagé ce moment sombre de votre vie. On est content que ce soit derrière vous maintenant.
OK.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors, merci à l'ensemble de mes invités, alors que ce soit Fanny, Marie-France, Marie-Lou, Sylvain Dupuis, Catherine Lyons, Francis Saint-Martin-Rochon, Céline Thomas et ce dernier monsieur, bénéficiaire de la traversée. N'hésitez donc pas à composer si vous vous sentez pas bien ou que quelqu'un de votre entourage cultive des idées sombres. N'hésitez pas à composer 450-746-0303. C'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine que les professionnels de la traversée sont là pour vous. La semaine prochaine, à la tribune, la Saint-Valentin, l'amour et l'amitié. Bonne semaine tout le monde.